troisième partie, chapitre 1. Les jours qui précédèrent mon dîner avec Madame de Stermaria me furent non pas délicieux, mais insupportables. C'est qu'en général, plus le temps qui nous sépare de ce que nous nous proposons est court, plus il nous semble long, parce que nous lui appliquons des mesures plus brèves ou simplement parce que nous songeons à le mesurer. La papauté, dit-on, compte par siècle et peut-être même ne songe pas à compter, parce que son but est à l'infini. Le mien étant seulement à la distance de 3 jours, je comptais par seconde, je me livrais à ces imaginations qui sont des commencements de caresses qu'on enrage de ne pouvoir faire achever par la femme elle-même. Ces caresses-là, précisément, à l'exclusion de toutes autres. Et en somme, s'il est vrai qu'en général la difficulté d'atteindre l'objet d'un désir l'accroît, la difficulté, non l'impossibilité, car cette dernière le supprime. Pourtant, pour un désir tout physique, la certitude qu'il sera réalisé à un moment prochain et déterminé n'est guère moins exaltante que l'incertitude. Presque autant que le doute anxieux, l'absence de doute rend intolérable l'attente du plaisir infaillible, parce qu'elle fait de cette attente un accomplissement innombrable, et, par la fréquence des représentations anticipées, divise le temps en tranches aussi menues que ferait l'angoisse. Ce qu'il me fallait, c'était posséder Madame de Stermaria, car depuis plusieurs jours, avec une activité incessante, mes désirs avaient préparé ce plaisir-là, dans mon imagination. Et ce plaisir seul, un autre, le plaisir avec une autre, n'eût pas, lui, été prêt, le plaisir n'étant que la réalisation d'une envie préalable et qui n'est pas toujours la même, qui change selon les 1000 combinaisons de la rêverie, les hasards du souvenir, l'état du tempérament, l'ordre de disponibilité des désirs, dont les derniers exaucés se reposent jusqu'à ce qu'ait été un peu oublié la déception de l'accomplissement. Je n'eusse pas été prêt, j'avais déjà quitté la grande route des désirs généraux et m'étais engagé dans le sentier d'un désir particulier. Il aurait fallu, pour désirer un autre rendez-vous, revenir de trop loin pour rejoindre la grande route et prendre un autre sentier. Posséder Madame de Stermaria dans l'île du bois de Boulogne où je l'avais invitée à dîner, tel était le plaisir que j'imaginais à toute minute. Il eût été naturellement détruit si j'avais dîné dans cette île sans Madame de Stermaria, mais peut-être aussi fort diminué en dînant, même avec elle, ailleurs. Du reste, les attitudes selon lesquelles on se figure un plaisir sont préalables à la femme, au genre de femme qui convient pour cela. Elle le commande, et aussi le lieu. Et à cause de cela, font revenir alternativement dans notre capricieuse pensée telle femme, tel site, telle chambre, qu'en d'autres semaines nous eussions dédaigné. Fille de l'attitude, telles femmes ne vont pas sans le grand lit où on trouve la paix à leur côté. Et d'autres, pour être caressées avec une intention plus secrète, veulent les feuilles au vent, les eaux dans la nuit, sont légères et fuyantes, autant qu'elles. Sans doute, déjà, bien avant d'avoir reçu la lettre de Saint-Loup, et quand il ne s'agissait pas encore de Madame de Stermaria, l'île du bois m'avait semblé faite pour le plaisir, parce que je m'étais trouvé aller y goûter la tristesse de n'en avoir aucun à y abriter. C'est au bord du lac qui conduisent à cette île et le long desquels, dans les dernières semaines de l'été, vont se promener les Parisiennes qui ne sont pas encore parties, que, ne sachant plus où la retrouver, et si même elle n'a pas déjà quitté Paris, on erre avec l'espoir de voir passer la jeune fille dont on est tombé amoureux dans le dernier bal de l'année, qu'on ne pourra plus retrouver dans aucune soirée avant le printemps suivant. Se sentant à la veille, peut-être au lendemain du départ de l'être aimé, on suit au bord de l'eau frémissante ces belles allées où déjà une première feuille rouge fleurit comme une dernière rose. On scrute cet horizon où, par un artifice inverse à celui de ces panoramas sous la rotonde desquels les personnages en cire du premier plan donnent à la toile peinte du fond l'apparence illusoire de la profondeur et du volume, nos yeux, passant sans transition du parc cultivé aux hauteurs naturelles de Meudon et du Mont Valérien, ne savent pas où mettre une frontière et font entrer la vraie campagne dans l'œuvre du jardinage, dont ils projettent bien au-delà d'elle-même l'agrément artificiel. Ainsi, ces oiseaux rares, élevés en liberté dans un jardin botanique et qui, chaque jour, au gré de leurs promenades ailées, vont poser jusque dans les bois limitrophes une note exotique. Entre la dernière fête de l'été et l'exil de l'hiver, on parcourt anxieusement ce royaume romanesque des rencontres incertaines et des mélancolies amoureuses, et on ne serait pas plus surpris qu'il fût situé hors de l'univers géographique que si à Versailles, au haut de la terrasse, observatoire autour duquel les nuages s'accumulent contre le ciel bleu dans le style de Van der Meulen, après s'être ainsi élevé en dehors de la nature, on apprenait que là où elle recommence, au bout du Grand Canal, les villages qu'on ne peut distinguer, à l'horizon éblouissant comme la mer, s'appellent Fleurus ou Nimègue. Et le dernier équipage passé, quand on sent avec douleur qu'elle ne viendra plus, on va dîner dans l'île. Au-dessus des peupliers tremblants, qui rappellent sans fin les mystères du soir, plus qu'ils n'y répondent, un nuage rose met une dernière couleur de vie dans le ciel apaisé. Quelques gouttes de pluie tombent sans bruit sur l'eau antique, mais dans sa divine enfance, restée toujours couleur du temps, et qui oublie à tout moment les images des nuages et des fleurs. Et après que les géraniums ont inutilement, en intensifiant l'éclairage de leurs couleurs, lutté contre le crépuscule assombri, une brume vient envelopper l'île qui s'endort. On se promène dans l'humide obscurité le long de l'eau, où tout au plus le passage silencieux d'un cygne vous étonne, comme dans un lit nocturne, les yeux un instant grands ouverts et le sourire d'un enfant qu'on ne croyait pas réveillé. Alors, on voudrait d'autant plus avoir avec soi une amoureuse qu'on se sent seul et qu'on peut se croire loin. Mais dans cette île, où même l'été il y avait souvent du brouillard, combien je serais plus heureux d'emmener Madame de Stermaria maintenant que la mauvaise saison, que la fin de l'automne était venue. Si le temps qu'il faisait depuis dimanche n'avait à lui seul rendu grisâtres et maritimes les pays dans lesquels mon imagination vivait, comme d'autres saisons les faisaient embaumés, lumineux, italiens, l'espoir de posséder dans quelques jours Madame de Stermaria eût suffi pour faire se lever 20 fois par heure un rideau de brume dans mon imagination monotonement nostalgique. En tout cas, le brouillard qui, depuis la veille, s'était élevé même à Paris, non seulement me faisait songer sans cesse au pays natal de la jeune femme que je venais d'inviter, mais comme il était probable que, bien plus épais encore que dans la ville, il devait le soir envahir le bois, surtout au bord du lac, je pensais qu'il ferait pour moi de l'île des Cygnes un peu l'île de Bretagne, dont l'atmosphère maritime et brumeuse avait toujours entouré pour moi, comme un vêtement, la pâle silhouette de Madame de Stermaria. Certes, quand on est jeune, à l'âge que j'avais dans mes promenades du côté de mes églises, notre désir, notre croyance, confère aux vêtements d'une femme une particularité individuelle, une irréductible essence. On poursuit la réalité. Mais à force de la laisser échapper, on finit par remarquer qu'à travers toutes ces vaines tentatives où on a trouvé le néant, quelque chose de solide subsiste. C'est ce qu'on cherchait. On commence à dégager, à connaître ce qu'on aime, on tâche à se le procurer, fût-ce au prix d'un artifice. Alors, à défaut de la croyance disparue, le costume signifie la suppléance à celle-ci par le moyen d'une illusion volontaire. Je savais bien qu'à une demi-heure de la maison, je ne trouverais pas la Bretagne. Mais en me promenant, enlacée à Madame de Stermaria, dans les ténèbres de l'île, au bord de l'eau, je ferai comme d'autres qui, ne pouvant pénétrer dans un couvent, du moins avant de posséder une femme, l'habillent en religieuse. Je pouvais même espérer d'écouter avec la jeune femme quelques clapotis de vagues, car, la veille du dîner, une tempête se déchaîna. Je commençais à me raser pour aller dans l'île retenir le cabinet, bien qu'à cette époque de l'année, l'île fût vide et le restaurant désert, et arrêter le menu pour le dîner du lendemain, quand Françoise m'annonça Albertine. Je fis entrer aussitôt, indifférent à ce qu'elle me vit en lady d'un manteau noir, celle pour qui, à Balbec, je ne me trouvais jamais assez beau, et qui m'avait coûté alors autant d'agitation et de peine que maintenant Madame de Stermaria. Je tenais à ce que celle-ci reçût la meilleure impression possible de la soirée du lendemain. Aussi, je demandai à Albertine de m'accompagner tout de suite jusqu'à l'île pour m'aider à faire le menu. Celle à qui on donne tout est si vite remplacée par une autre qu'on est étonné soi-même de donner ce qu'on a de nouveau à chaque heure sans espoir d'avenir. À ma proposition, le visage souriant et rose d'Albertine, sous un toquet plat qui descendait très bas, jusqu'aux yeux, sembla hésiter. Elle devait avoir d'autres projets. En tout cas, elle me les sacrifia aisément, à ma grande satisfaction, car j'attachais beaucoup d'importance à avoir avec moi une jeune ménagère qui saurait bien mieux commander le dîner que moi. Il est certain qu'elle avait représenté tout autre chose pour moi à Balbec. Mais notre intimité, même quand nous ne la jugeons pas alors assez étroite, avec une femme dont nous sommes épris, crée entre elle et nous, malgré les insuffisances qui nous font souffrir alors, des liens sociaux qui survivent à notre amour et même au souvenir de notre amour. Alors, dans celle qui n'est plus pour moi qu'un moyen et un chemin vers d'autres, nous sommes tout aussi étonnés et amusés d'apprendre, de notre mémoire, ce que son nom signifia d'original pour l'autre être que nous avons été autrefois. Que si, après avoir jeté à un cocher une adresse, boulevard des Capucines ou rue du Bac, en pensant seulement à la personne que nous allons y voir, nous nous avisons que ces noms furent jadis celui des religieuses capucines, dont le couvent se trouvait là, et celui du Bac qui traversait la Seine. Certes, mes désirs de Balbec avaient si bien mûri le corps d'Albertine, y avaient accumulé des saveurs si fraîches et si douces, que pendant notre course au bois, tandis que le vent, comme un jardinier soigneux, secouait les arbres, faisait tomber les fruits, balayait les feuilles mortes, je me disais que s'il y avait eu un risque pour que Saint-Loup se fût trompé, ou que j'eusse mal compris sa lettre, et que mon dîner avec Madame de Stermaria ne me conduisit à rien, j'eusse donné rendez-vous pour le même soir, très tard, à Albertine, afin d'oublier pendant une heure purement voluptueuse, en tenant dans mes bras le corps dont ma curiosité avait jadis supputé, sous-pesé tous les charmes dont il surabondait maintenant, les émotions et peut-être les tristesses de ce commencement d'amour pour Madame de Stermaria. Et certes, si j'avais pu supposer que Madame de Stermaria ne m'accorderait aucune faveur le premier soir, je me serais représenté ma soirée avec elle d'une façon assez décevante. Je savais trop bien, par expérience, comment les deux stades qui se succèdent en nous, dans ces commencements d'amour pour une femme que nous avons désirée sans la connaître, aimant plutôt en elle la vie particulière où elle baigne, qu'elle-même, presque inconnue encore, comment ces deux stades se reflètent bizarrement dans le domaine des faits, c'est-à-dire non plus en nous-mêmes, mais dans nos rendez-vous avec elle. Nous avons, sans avoir jamais causé avec elle, hésité, tenté que nous étions par la poésie qu'elle représente pour nous. Sera-ce elle ou telle autre ? Et voici que les rêves se fixent autour d'elle, ne font plus qu'un avec elle. Le premier rendez-vous avec elle, qui suivra bientôt, devrait refléter cet amour naissant. Il n'en est rien. Comme s'il était nécessaire que la vie matérielle eût aussi son premier stade, l'aimant déjà, nous lui parlons de la façon la plus insignifiante. Je vous ai demandé de venir dîner dans cette île parce que j'ai pensé que ce cadre vous plairait. Je n'ai du reste rien de spécial à vous dire, mais j'ai peur qu'il ne fasse bien humide et que vous n'ayez froid. Mais non ! Vous le dites par amabilité. Je vous permets, madame, de lutter encore un quart d'heure contre le froid, pour ne pas vous tourmenter. Mais dans un quart d'heure, je vous ramènerai de force. Je ne veux pas vous faire prendre un rhume. » Et sans lui avoir rien dit, nous la ramenons, ne nous rappelant rien d'elle, tout au plus une certaine façon de regarder, mais ne pensant qu'à la revoir. Or, la seconde fois, ne retrouvant même plus le regard, seul souvenir, mais ne pensant plus malgré cela qu'à la revoir, le premier stade est dépassé. Rien n'a eu lieu dans l'intervalle, et pourtant, au lieu de parler du confort du restaurant, nous disons, sans que cela étonne la personne nouvelle, que nous trouvons laide, mais à qui nous voudrions qu'on parle de nous à toutes les minutes de sa vie. Nous allons avoir fort à faire pour vaincre tous les obstacles accumulés entre nos cœurs. Pensez-vous que nous y arriverons ? Vous figurez-vous que nous puissions avoir raison de nos ennemis, espérer un heureux avenir ? Mais ces conversations, d'abord insignifiantes, puis faisant allusion à l'amour, n'auraient pas lieu. J'en pouvais croire la lettre de Saint-Loup. Madame de Stermaria se donnerait dès le premier soir. Je n'aurais donc pas besoin de convoquer Albertine chez moi, comme pis-aller, pour la fin de la soirée. C'était inutile. Robert n'exagérait jamais et sa lettre était claire. Albertine me parlait peu, car elle sentait que j'étais préoccupée. Nous fîmes quelques pas à pied, sous la grotte verdâtre, quasi sous-marine, d'une épaisse futaie, sur le dôme de laquelle nous entendions déferler le vent et éclabousser la pluie. J'écrasai par terre des feuilles mortes qui s'enfonçaient dans le sol comme des coquillages, et je poussai de ma canne des châtaignes piquantes comme des oursins. Aux branches, les dernières feuilles convulsées ne suivaient le vent que de la longueur de leur attache, mais quelquefois, celles-ci se rompant, elles tombaient à terre et le rattrapaient en courant. Je pensais avec joie combien, si ce temps durait, l'île serait demain plus lointaine encore, et en tout cas entièrement déserte. Nous remontâmes en voiture, et comme la bourrasque s'était calmée, Albertine me demanda de poursuivre jusqu'à Saint-Cloud. Ainsi qu'en bas les feuilles mortes, en haut les nuages suivaient le vent. Et des soirs migrateurs, dont une sorte de section conique pratiquée dans le ciel laissait voir la superposition rose, bleue et verte, était tout préparé à destination de climats plus beaux. pour voir de plus près une déesse de marbre qui s'élançait de son socle, et, toute seule dans un grand bois qui semblait lui être consacré, l'emplissait de la terreur mythologique, moitié animal, moitié sacré de ses bons furieux. Albertine monta sur un tertre, tandis que je l'attendais sur le chemin. Elle-même, vue ainsi d'en bas, non plus grosse et rebondie comme l'autre jour sur mon lit où les grains de son cou apparaissaient à la loupe de mes yeux approchés, mais ciselée et fine, semblait une petite statue sur laquelle les minutes heureuses de Balbec avaient passé leur patine. Quand je me retrouvai seule chez moi, me rappelant que j'avais été faire une course l'après-midi avec Albertine, que je dînais le surlendemain chez madame de Guermantes et que j'avais à répondre à une lettre de Gilberte, trois femmes que j'avais aimées, je me dis que notre vie sociale est, comme un atelier d'artiste, rempli des ébauches délaissées où nous avions cru un moment pouvoir fixer notre besoin d'un grand amour. Mais je ne songeais pas que, quelquefois, si l'ébauche n'est pas trop ancienne, il peut arriver que nous la reprenions et que nous en fassions une œuvre toute différente, et peut-être même plus importante que celle que nous avions projetée d'abord. Le lendemain, il fit froid et beau. On sentait l'hiver. Et de fait, la saison était si avancée que c'était miracle si nous avions pu trouver dans le bois déjà saccagé quelques dômes d'or vert. En m'éveillant, je vis, comme de la fenêtre de la caserne de Doncières, la brume mate, unie et blanche, qui pendait gaiement au soleil, consistante et douce, comme du sucre filé. Puis le soleil se cacha, et elle s'épaissit encore dans l'après-midi. Le jour tomba de bonne heure, je fis ma toilette, mais il était encore trop tôt pour partir. Je décidai d'envoyer une voiture à madame de Stermaria. Je n'osais pas y monter pour ne pas la forcer à faire la route avec moi. Mais je remis au cocher un mot pour elle où je lui demandais si elle permettait que je vinsse la prendre. En attendant, je m'étendis sur mon lit, je fermai les yeux un instant, puis les rouvris. Au-dessus des rideaux, il n'y avait plus qu'un mince liseré de jour qui allait s'obscurcissant. Je reconnaissais cette heure inutile, vestibule profond du plaisir, et dont j'avais appris à Balbec à connaître le vide sombre et délicieux. Quand, seule dans ma chambre, comme maintenant, pendant que tous les autres étaient à dîner, je voyais sans tristesse le jour mourir au-dessus des rideaux, sachant que, bientôt, après une nuit aussi courte que les nuits du pôle, il allait ressusciter plus éclatant dans le flamboiement de Rivebelle. Je sautai à bas de mon lit. Je passai ma cravate noire, je donnai un coup de brosse à mes cheveux, geste dernier d'une mise en ordre tardive, exécuté à Balbec en pensant non à moi, mais aux femmes que je verrais à Rivebelle, tandis que je leur souriais d'avance dans la glace oblique de ma chambre. Et restés à cause de cela les signes avant-coureurs d'un divertissement mêlé de lumières et de musique. Comme des signes magiques, ils l'évoquaient. Bien plus, le réalisait déjà. Grâce à eux, j'avais de sa vérité une notion aussi certaine, de son charme enivrant et frivole une jouissance aussi complète que celle que j'avais à Combray au mois de juillet, quand j'entendais les coups de marteau de l'emballeur et que je jouissais, dans la fraîcheur de ma chambre noire, de la chaleur et du soleil. Aussi, n'était-ce plus tout à fait madame de Stermaria que j'aurais désiré voir. Forcée maintenant de passer avec elle ma soirée, j'aurais préféré, comme celle-ci était ma dernière avant le retour de mes parents, qu'elle restât libre et que je pusse chercher à revoir des femmes de Rivebelle. Je me relavais une dernière fois les mains et dans la promenade que le plaisir me faisait faire à travers l'appartement, je me les essuyais dans la salle à manger obscure. Elle me parut ouverte sur l'antichambre éclairée, mais ce que j'avais pris pour la fente illuminée de la porte, qui, au contraire, était fermée, n'était que le reflet blanc de ma serviette dans une glace posée le long du mur, en attendant qu'on la plaçât pour le retour de maman. Je repensais à tous les mirages que j'avais ainsi découverts dans notre appartement, et qui n'étaient pas coptiques, car les premiers jours, j'avais cru que la voisine avait un chien, à cause du jappement prolongé, presque humain, qu'avait pris un certain tuyau de cuisine chaque fois qu'on ouvrait le robinet. Et la porte du palier ne se refermait d'elle-même très lentement sur les courants d'air de l'escalier qu'en exécutant les hachures de phrases voluptueuses et gémissantes qui se superposent au cœur des pèlerins vers la fin de l'ouverture de Tannhäuser. J'eus, du reste, comme je venais de remettre ma serviette en place, l'occasion d'avoir une nouvelle audition de cet éblouissant morceau symphonique. Car un coup de sonnette ayant retenti, je courus ouvrir la porte de l'antichambre au cocher qui me rapportait la réponse. Je pensais que ce serait « Cette dame est en bas » ou « Cette dame vous attend ». Mais il tenait à la main une lettre. J'hésitais un instant à prendre connaissance de ce que Madame de Stermaria avait écrit, qui, tant qu'elle avait la plume en main, aurait pu être autre, mais qui maintenant était, détaché d'elle, un destin, qui poursuivait seul sa route et auquel elle ne pouvait plus rien changer. Je demandai au cocher de redescendre et d'attendre un instant, quoiqu'il maugréât contre la brume. Dès qu'il fut parti, j'ouvris l'enveloppe. Sur la carte. Vicomtesse Alix de Stermaria. Mon invité avait écrit « Je suis désolée, un contretemps m'empêche de dîner ce soir avec vous à l'île du Bois. Je m'en faisais une fête. Je vous écrirai plus longuement de Stermaria. Regret, amitié. » Je restais immobile, étourdi par le choc que j'avais reçu. À mes pieds étaient tombées la carte et l'enveloppe, comme la bourre d'une arme à feu quand le coup est parti. Je les ramassais, j'analysais cette phrase. Elle me dit qu'elle ne peut dîner avec moi à l'île du Bois. On pourrait en conclure qu'elle pourrait dîner avec moi ailleurs. Je n'aurais pas l'indiscrétion d'aller la chercher, mais enfin, cela pourrait se comprendre ainsi. Et cette île du Bois, comme depuis 4 jours ma pensée y était installée d'avance avec Madame de Stermaria, je ne pouvais arriver à l'en faire revenir. Mon désir reprenait involontairement la pente qu'il suivait déjà depuis tant d'heures. Et malgré cette dépêche, trop récente pour prévaloir contre lui, je me préparais instinctivement encore à partir. Comme un élève refusé à un examen voudrait répondre à une question de plus. Je finis par me décider à aller dire à Françoise de descendre payer le cocher. Je traversai le couloir, ne la trouvant pas, je passai par la salle à manger. Tout d'un coup, mes pas cessèrent de retentir sur le parquet, comme ils avaient fait jusque-là, et s'assourdirent en un silence qui, même avant que j'en reconnusse la cause, me donna une sensation d'étouffement et de claustration. C'étaient les tapis que, pour le retour de mes parents, on avait commencé de clouer. Ces tapis qui sont si beaux par les heureuses matinées, quand, parmi leur désordre, le soleil vous attend comme un ami venu pour vous emmener déjeuner à la campagne, et pose sur eux le regard de la forêt, mais qui, maintenant, au contraire, était le premier aménagement de la prison hivernale, d'où, obligé que j'allais être de vivre, de prendre mes repas en famille, je ne pourrais plus librement sortir. « Que monsieur prenne garde de tomber, ils ne sont pas encore cloués !» me cria Françoise. « J'aurais dû allumer, on est déjà à la fin de septembre, les beaux jours sont finis !» bientôt l'hiver. Au coin de la fenêtre, comme sur un verre de galet, une veine de neige durcit. Et même aux Champs-Élysées, au lieu des jeunes filles qu'on attend, rien que les moineaux tout seuls. Ce qui ajoutait à mon désespoir de ne pas voir Madame de Stermaria, c'était que sa réponse me faisait supposer que, pendant qu'heure par heure, depuis dimanche, je ne vivais que pour ce dîner, elle n'y avait sans doute pas pensé une fois. Plus tard, j'appris un absurde mariage d'amour qu'elle fit avec un jeune homme qu'elle devait déjà voir à ce moment-là et qui lui avait fait sans doute oublier mon invitation. Car si elle se l'était rappelé, elle n'eût pas sans doute attendu la voiture, que je ne devais du reste pas, d'après ce qui était convenu, lui envoyer pour m'avertir qu'elle n'était pas libre. Mes rêves de jeune vierge féodale dans une île brumeuse avaient frayé le chemin à un amour encore inexistant. Maintenant, ma déception, ma colère, mon désir désespéré de ressaisir celle qui venait de se refuser, pouvait, en mettant ma sensibilité de la partie, fixer l'amour possible que jusque-là mon imagination seule m'avait, mais plus mollement, offert. Combien y en a-t-il dans nos souvenirs, combien plus dans notre oubli, de ces visages de jeunes filles et de jeunes femmes, tous différents, et auxquels nous n'avons ajouté du charme et un furieux désir de les revoir, que parce qu'il s'était au dernier moment dérobé. À l'égard de Madame de Stermaria, c'était bien plus, et il me suffisait maintenant, pour l'aimer, de la revoir, afin que fussent renouvelées ses impressions si vives, mais trop brèves, et que la mémoire n'aurait pas sans cela la force de maintenir dans l'absence. Les circonstances en décidèrent autrement. Je ne la revis pas. Ce ne fut pas elle que j'aimais, mais ça aurait pu être elle. Et une des choses qui me rendirent peut-être le plus cruel le grand amour que j'allais bientôt avoir, ce fut, en me rappelant cette soirée, de me dire qu'il aurait pu, si de très simples circonstances avaient été modifiées, se porter ailleurs, sur Madame de Stermaria. Appliquée à celle qui me l'inspira si peu après, il n'était donc pas, comme j'aurais pourtant eu si envie, si besoin de le croire, absolument nécessaire et prédestiné. Françoise m'avait laissé seule dans la salle à manger, en me disant que j'avais tort d'y rester avant qu'elle eût allumé le feu. Elle allait faire à dîner, car avant même l'arrivée de mes parents, et dès ce soir, ma réclusion commençait. J'avisais un énorme paquet de tapis encore tout enroulé, lequel avait été posé au coin du buffet, et, m'y cachant la tête, avalant leur poussière et mes larmes, pareil aux juifs qui se couvraient la tête de cendres dans le deuil, je me mis à sangloter. Je frissonnais, non pas seulement parce que la pièce était froide, mais parce qu'un notable abaissement thermique, contre le danger et, faut-il le dire, le léger agrément duquel on ne cherche pas à réagir, est causé par certaines larmes qui pleurent de nos yeux, goutte à goutte, comme une pluie fine, pénétrante, glaciale, semblant ne devoir jamais finir. Tout d'un coup, j'entendis une voix. « Peut-on entrer ? Françoise m'a dit que tu devais être dans la salle à manger. » « Je venais voir si tu ne voulais pas que nous allions dîner quelque part ensemble, si cela ne te fait pas mal, car il fait un brouillard à couper au couteau. » C'était arrivé du matin, quand je le croyais encore au Maroc ou en mer, Robert de Saint-Loup. J'ai dit, et précisément c'était, à Balbec, Robert de Saint-Loup qui m'avait, bien malgré lui, aidé à en prendre conscience. Ce que je pense de l'amitié, à savoir qu'elle est si peu de choses que j'ai peine à comprendre que des hommes de quelque génie, et par exemple un Nietzsche, aient eu la naïveté de lui attribuer une certaine valeur intellectuelle, et, en conséquence, de se refuser à des amitiés auquel l'estime intellectuelle n'eût pas été liée. Oui, cela m'a toujours été un étonnement de voir qu'un homme qui poussait la sincérité avec lui-même jusqu'à se détacher, par scrupule de conscience, de la musique de Wagner, se soit imaginé que la vérité peut se réaliser dans ce monde d'expression par nature confus et inadéquat que sont, en général, des actions et, en particulier, des amitiés, et qu'il puisse y avoir une signification quelconque dans le fait de quitter son travail pour aller voir un ami et pleurer avec lui en apprenant la fausse nouvelle de l'incendie du Louvre. J'en étais arrivé à Balbec, a trouvé le plaisir de jouer avec des jeunes filles moins funestes à la vie spirituelle, à laquelle du moins il reste étranger, que l'amitié dont tout l'effort est de nous faire sacrifier la partie seule réelle et incommunicable, autrement que par le moyen de l'art, de nous-mêmes, à un moi superficiel qui ne trouve pas comme l'autre de joie en lui-même, mais trouve un attendrissement confus à se sentir soutenu sur des étais extérieurs, hospitalisé dans une individualité étrangère, où, heureux de la protection qu'on lui donne, il fait rayonner son bien-être en approbation et s'émerveille de qualités qu'il appellerait défauts et chercherait à corriger chez soi-même. D'ailleurs, les contempteurs de l'amitié peuvent, sans illusion et non sans remords, être les meilleurs amis du monde, de même qu'un artiste portant en lui un chef-d'œuvre et qui sent que son devoir serait de vivre pour travailler, malgré cela, pour ne pas paraître ou risquer d'être égoïste, donne sa vie pour une cause inutile et la donne d'autant plus bravement que les raisons pour lesquelles il eût préféré ne pas la donner étaient des raisons désintéressées. Mais quelle que fût mon opinion sur l'amitié, même pour ne parler que du plaisir qu'elle me procurait, d'une qualité si médiocre qu'elle ressemblait à quelque chose d'intermédiaire entre la fatigue et l'ennui, il n'est breuvage si funeste qui ne puisse à certaines heures devenir précieux et réconfortant en nous apportant le coup de fouet qui nous était nécessaire, la chaleur que nous ne pouvons pas trouver en nous-mêmes. J'étais bien éloignée, certes, de vouloir demander à Saint-Loup, comme je le désirais il y a une heure, de me faire revoir des femmes de Rivebelle. Le sillage que laissait en moi le regret de Madame de Stermaria ne voulait pas être effacé si vite. Mais, au moment où je ne sentais plus dans mon cœur aucune raison de bonheur, Saint-Loup, entrant, ce fut comme une arrivée de bonté, de gaieté, de vie, qui était en dehors de moi sans doute, mais s'offrait à moi, ne demandait qu'à être à moi. Il ne comprit pas lui-même mon cri de reconnaissance et mes larmes d'attendrissement. Qu'y a-t-il de plus paradoxalement affectueux d'ailleurs qu'un de ses amis, diplomate, explorateur, aviateur ou militaire, comme l'était Saint-Loup, et qui, repartant le lendemain pour la campagne et de là, pour Dieu sait tout, semble faire tenir pour eux-mêmes, dans la soirée qu'ils nous consacrent, une impression qu'on s'étonne de pouvoir, tant elle est rare et brève, leur être si douce, et, du moment qu'elle leur plaît tant, de ne pas les voir prolonger davantage ou renouveler plus souvent. Un repas avec nous, chose si naturelle, donne à ces voyageurs le même plaisir étrange et délicieux que nos boulevards à un Asiatique. Nous partîmes ensemble pour aller dîner, et tout en descendant l'escalier, je me rappelais d'Oncières, où chaque soir j'allais retrouver Robert au restaurant et les petites salles à manger oubliées. Je me souvins d'une à laquelle je n'avais jamais repensé et qui n'était pas à l'hôtel où Saint-Loup dînait, mais dans un bien plus modeste, intermédiaire entre l'hôtellerie et la pension de famille, et où on était servi par la patronne et une de ses domestiques. La neige m'avait arrêté là. D'ailleurs, Robert ne devait pas ce soir-là dîner à l'hôtel, et je n'avais pas voulu aller plus loin. On m'apporta les plats, en haut, dans une petite pièce, tout en bois. La lampe s'éteignit pendant le dîner. La servante m'alluma deux bougies. Moi, feignant de ne pas voir très clair en lui tendant mon assiette, pendant qu'elle y mettait des pommes de terre, je pris dans ma main son avant-bras nu, comme pour la guider. Voyant qu'elle ne le retirait pas, je le caressai. Puis, sans prononcer un mot, l'attirai tout entière à moi. Soufflai la bougie, et alors lui dit de me fouiller pour qu'elle eût un peu d'argent. Pendant les jours qui suivirent, le plaisir physique me parut exiger, pour être goûté, non seulement cette servante, mais la salle à manger de bois, si isolée. Ce fut pourtant vers celle où dînaient Robert et ses amis que je retournais tous les soirs, par habitude, par amitié, jusqu'à mon départ de Doncières. Et pourtant, même cet hôtel où il prenait pension avec ses amis, je n'y songeais plus depuis longtemps. Nous ne profitons guère de notre vie. Nous laissons inachevés dans les crépuscules d'été ou les nuits précoces d'hiver les heures où il nous avait semblé qu'eût pu pourtant être enfermé un peu de paix ou de plaisir. Mais ces heures ne sont pas absolument perdues. Quand chantent à leur tour de nouveaux moments de plaisir qui passeraient de même aussi grêles et linéaires, elles viennent leur apporter le soubassement, la consistance d'une riche orchestration. Elles s'étendent ainsi jusqu'à un de ces bonheurs types qu'on ne retrouve que de temps à autre, mais qui continuent d'être. Dans l'exemple présent, c'était l'abandon de tout le reste pour dîner dans un cadre confortable qui, par la vertu des souvenirs, enferme dans un tableau de nature des promesses de voyage, avec un ami qui va remuer notre vie dormante de toute son énergie, de toute son affection, nous communiquer un plaisir ému, bien différent de celui que nous pourrions devoir à notre propre effort ou à des distractions mondaines. Nous allons être rien qu'à lui faire des serments d'amitié qui, nés dans les cloisons de cette heure, restant enfermés en elle, ne seraient peut-être pas tenus le lendemain, mais que je pouvais faire sans scrupule à Saint-Loup, puisque, avec un courage où il entrait beaucoup de sagesse et le pressentiment que l'amitié ne se peut approfondir, le lendemain, il serait reparti. Si, en descendant l'escalier, je revivais les soirs de Doncières, quand nous fûmes arrivés dans la rue, brusquement, la nuit presque complète où le brouillard semblait avoir éteint les réverbères, qu'on ne distinguait bien faible que de tout près, me ramena à je ne sais quelle arrivée le soir à Combray, quand la ville n'était encore éclairée que de loin en loin, et qu'on y tâtonnait dans une obscurité humide, tiède et sainte de crèche, à peine étoilée çà et là d'un lumignon qui ne brillait pas plus qu'un cierge. Entre cette année, incertaine d'ailleurs, de Combray et les soirs à Rivebelle revus tout à l'heure au-dessus des rideaux, quelle différence ! J'éprouvais à les percevoir un enthousiasme qui aurait pu être fécond si j'étais restée seule, et m'aurait évité ainsi le détour de bien des années inutiles par lesquelles j'allais encore passer, avant que se déclarât la vocation invisible dont cet ouvrage est l'histoire. Et si cela fût advenu ce soir-là, cette voiture eût mérité de demeurer plus mémorable pour moi que celle du docteur Percepied, sur le siège de laquelle j'avais composé cette petite description, précisément retrouvée il y avait peu de temps, arrangée et vainement envoyée au Figaro. Des cloches de Martainville. Est-ce parce que nous ne revivons pas nos années dans leur suite continue jour par jour, mais dans le souvenir figé dans la fraîcheur ou l'insolation d'une matinée ou d'un soir, recevant l'ombre de tel site isolé, enclos, immobile, arrêté et perdu, loin de tout le reste, et qu'ainsi les changements gradués non seulement au dehors, mais dans nos rêves et notre caractère évoluant, lesquels nous ont insensiblement conduits dans la vie d'un temps à tel autre très différent, se trouvant supprimés, si nous revivons un autre souvenir prélevé sur une année différente, nous trouvons entre eux, grâce à des lacunes, à d'immenses pans d'oubli, comme l'abîme d'une différence d'altitude, comme l'incompatibilité de deux qualités incomparables d'atmosphère respirée et de colorations ambiantes. Mais entre les souvenirs que je venais d'avoir, successivement, de Combray, de Doncières et de Rivebelle, je sentais en ce moment bien plus qu'une distance de temps, la distance qu'il y aurait entre des univers différents où la matière ne serait pas la même. Si j'avais voulu, dans un ouvrage, imiter celle dans laquelle m'apparaissaient ciselés mes plus insignifiants souvenirs de Rivebelle, il m'eût fallu veiner de rose, rendre tout d'un coup translucide, compacte, fraîchissante et sonore, la substance jusque-là analogue au grès sombre et rude de Combray. Mais Robert, ayant fini de donner ses explications au cocher, me rejoignit dans la voiture. Les idées qui m'étaient apparues s'enfuirent. Ce sont des déesses qui daignent quelquefois se rendre visibles à un mortel solitaire au détour d'un chemin, même dans sa chambre pendant qu'il dort, alors que debout dans le cadre de la porte, elles lui apportent leur annonciation. Mais dès qu'on est deux, elles disparaissent. Les hommes en société ne les aperçoivent jamais. Et je me trouvais rejeté dans l'amitié. Robert, en arrivant, m'avait bien averti qu'il faisait beaucoup de brouillard. Mais, tandis que nous causions, il n'avait cessé d'épaissir. Ce n'était plus seulement la brume légère que j'avais souhaité voir s'élever de l'île et nous envelopper, Madame de Stermaria et moi. À deux pas, les réverbères s'éteignaient. Et alors, c'était la nuit, aussi profonde qu'en plein champ, dans une forêt, ou plutôt dans une molle île de Bretagne vers laquelle j'eusse voulu aller. Je me sentis perdu, comme sur la côte de quelque mer septentrionale où on risque 20 fois la mort avant d'arriver à l'auberge solitaire. Cessant d'être un mirage qu'on recherche, le brouillard devenait un de ces dangers contre lesquels on lutte, de sorte que nous eûmes, à trouver notre chemin et à arriver à bon port, les difficultés, l'inquiétude et enfin la joie que donne la sécurité, si insensible à celui qui n'est pas menacé de la perdre, aux voyageurs perplexes et dépaysés. Blâme. Je voulais lui dire que, si l'on aime les situations tranchées, il faut avoir de ces accès de franchise en ce qui vous concerne et ne point faire de trop faciles vertus aux dépens des autres. Mais déjà, la voiture s'était arrêtée devant le restaurant, dont la vaste façade vitrée et flamboyante arrivait seule à percer l'obscurité. Le brouillard lui-même, par les clartés confortables de l'intérieur, semblait jusque sur le trottoir même vous indiquer l'entrée avec la joie de ses valets, qui reflètent les dispositions du maître. Il s'irisait des nuances les plus délicates et montrait l'entrée comme la colonne lumineuse qui guida les Hébreux. Il y en avait d'ailleurs beaucoup dans la clientèle, car c'était dans ce restaurant que Bloch et ses amis étaient venus longtemps, ivres d'un jeûne aussi affamant que le jeûne rituel, lequel du moins n'a lieu qu'une fois par an, de café et de curiosité politique, se retrouver le soir.